centre de la pièce, une radio parle sous les discussions qui s'enchevêtrent entre les trois chaises qui l'entourent. On regarde le sol en brique et on aperçoit un trou rectangulaire et sombre. Celui-ci permet l'accès à l'étage d'en dessous. Des marches descendent, et nous avec. Les pieds agrippés à l'escalier et les mains sur le rebord, à la limite entre le sol et le vide, on descend en tâtonnant du regard dans l'obscurité. La lumière s'allume, on identifie une salle de bain, espace lavomatique, et des toilettes, espace politique. On s'assoit sur le trône et nos pensées dérivent au gré de l'observation de notre esprit et d'une pile de livres qui subissent l'humidité malgré leur statut de conseiller du roi. On remonte l'escalier, l'esprit fier de notre politique de bas étage. On se pavane, se croyant coq, tandis que la cuisine observe bassement cette tête qui flotte au milieu du sol en se dandinant. Un escalier en spirale nous toise du regard. On se remprend en main et se tenant à la rampe, on monte. Cette chambre est dévisagée de fenêtres. Au nombre de quatre, elles nous permettent de respirer enfin. On redescend l'escalier quand on entend la radio qui a pris le dessus, perdant sa position d'orchestre et se prenant pour le chef.
Il est 6 heures sur Nostalgie en pantoufles. Nous allons maintenant écouter un opéra en 4 actes.
On s'arrête.
Jingle.
Acte 1. La cuisine. Région du Darien, 3 janvier.
Je suis dans un endroit poreux et humide. Géographiquement, il se situe à la jonction exacte entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, à la frontière entre le Panama et la Colombie. La panaméricaine, cette route qui traverse l'intégralité du continent américain, n'y passe pas. C'est même le seul endroit où la route est coupée. Pas de route, pas d'autoroute, pas d'infrastructure. La nature, elle, y est tellement présente qu'elle a empêché l'édification de toute construction. Eh bien, mes chers amis, il y a 70 ans, j'étais ici. J'avais alors 3 ans et je me suis lié d'amitié avec un singe, une orang-outan, surnommée la Mika Mikaela. Très rapidement, cette mère singe a décidé de m'adopter et m'a emmené en haut d'un palmier. Ma mère s'est alors assise en bas de l'arbre et a parlé à sa rivale pour l'apaiser. Au bout d'un temps incertain, la Mika Mikaela est descendue du palmier et m'a déposée sur le sol. Puis elle s'est éloignée. Dénouement incongru, il y a quelques années, j'apprends que cette histoire est fausse. La Mika Mikaela est en fait accrochée à une chaîne. Bien que longue, c'est un singe semi-apprivoisé. Elle m'a prise dans ses bras. Oh, mais le palmier a disparu. La Mika Mikaela n'a jamais quitté le sol. Et l'élément dramatique de l'histoire n'est plus là. Pourtant, l'image de la mère tentant de récupérer son enfant dans les bras d'un animal sauvage est encore bien présente. C'est à ce moment-là que je comprends. Et d'ailleurs, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Que les orang-outans ne vivent pas sur le continent américain. Non, non. Je questionne. On me dit que ce n'est peut-être pas un orang-outan, mais un chimpanzé. Les chimpanzés vivant en Afrique et les singes vivant à cet endroit de l'Amérique ne sont jamais bien grands. J'ai donc décidé de revenir sur les lieux du crime dans l'espoir de rencontrer, si elle existe vraiment, ma mère adoptive.
Acte 2, la salle de bain. Dans les années 50, j'ai mené une expédition entre l'Orénoque et l'Amazone. Celle-ci avait comme objectif d'explorer une partie de la forêt encore inconnue pour la femme occidentale. À chaque nouvelle rencontre, le même problème se posait. Comment entamer un dialogue avec les occupants des lieux ? J'avais emmené des photographies, des livres et un gramophone afin de partager quelques bribes de mon histoire et dans l'espoir de découvrir leur quotidien. À plusieurs reprises, je passais une symphonie de Mozart qui eut à chaque fois le même résultat. Elle exerçait une sorte de pouvoir magique sur les Indiens, raccourcissant la distance entre nous. Acte 3, la chambre.
Pavillon de la multitude, le 20 novembre.
Par cette lettre, je vous annonce mon retrait de la vie raisonnée et du pouvoir peureux que j'ai pu acquérir en tant que gouverneur. J'ai pris la décision de me retirer dans mon pavillon afin d'écrire un livre et de construire un labyrinthe, et ce jusqu'à l'aboutissement de ces deux objets. À mes yeux, le temps est sans fin ni début, non comme une spirale mais comme des cercles, imbriqués les uns dans les autres. Visuellement, on pourrait le décrire comme une cible. Chacun de ces cercles représente un temps différent, qui peuvent diverger, converger, bifurquer ou se multiplier. Comprenez bien que ce retrait m'est absolument nécessaire et qu'en aucun cas il ne doit être compris comme un refus de mes responsabilités ou un abandon de ma part. Ma confiance s'est transformée en servilité et mon orgueil est devenu respect. On m'a appris à ne pas tromper les autres, mais point à ne pas me laisser tromper. Je m'en vais donc suivre mes instincts éduqués en espérant que d'une manière ou d'une autre, le temps vous fera comprendre ma décision et l'accepter.
L'homme se retira pendant 12 ans dans son pavillon. Durant ces 12 années, il dessina et construisit des centaines de plans et de maquettes de labyrinthes, utilisant tous les matériaux qu'il avait sous la main. Quand il eut épuisé toutes ses ressources qu'il avait à sa disposition, il n'y avait plus que des piles de livres et d'objets amassés de part et d'autre de sentiers sinueux. Il se souvint alors du livre et il comprit. Le livre et le labyrinthe devaient être le même objet. Les mots étaient le seul moyen de construire les murs mouvants dont il avait besoin pour produire son labyrinthe de temps.
Acte 4, l'escalier. Un matin, nous avons croisé un homme dans les forêts marécageuses du Darien.
C'était le 2e ou 3e jour de notre voyage.
Nos regards se sont croisés et nous avons échangé 2-3 mots, d'une banalité inappropriée à la situation.
Il tenait à la main une carte de la région et nous a proposé de nous la laisser.
Pendant notre séjour, aucune trace de la Mika Mikaela et aucune preuve de son existence.
Mais après de longues errances et plusieurs rencontres, nous avons tout de même réussi à recouper des bribes d'informations liées indirectement à son histoire. Il y a une 40aine d'années, un homme aurait vécu sur une plage de la région avec sa femme.
On dit qu'à côté de leur maison, ils avaient une bibliothèque hallucinante, construite avec des feuilles de bananier, entièrement suspendue entre un arbre et un piquet.
De 3 mètres de large, elle s'élevait apparemment aussi haut que la cime des arbres. Il n'y avait pourtant ni escalier ni échelle, rien qui permette d'atteindre les derniers rayons.
L'homme avait décidé d'écrire des livres lui aussi, pour se faire une place parmi tous ses ouvrages. Il avait choisi d'écrire en français, afin de ne pas brouiller l'ordre régnant dans les livres de sa femme francophone.
Comme il ne comprenait pas cette langue, il avait mis en place un système de copier-coller très productif. Il choisissait, dans les livres qu'il avait à sa disposition, des mots ou des phrases. Il les répertoriait, puis les assemblait afin de construire de nouveaux récits.
La femme qui nous raconta cette histoire nous proposa d'aller voir un homme récemment arrivé dans la région qui avait construit sa maison sur les vestiges de la bibliothèque. Elle pensait qu'il s'était sans doute approprié les livres qui étaient encore présents et qu'il pouvait sûrement nous les montrer.
Avant le départ, nous sommes allés à la plage.
Perchés sur un gazon surplombant la mer, nous sommes tombés sur une maison à l'allure confortable et accueillante, mais les volets fermés et la porte close.
Juste un nom sur la sonnette. Comme si quelqu'un pouvait se trouver là par inadvertance et aurait besoin d'être renseigné sur l'occupant de cette maison reculée.
Nous avons noté le nom et sommes repartis bredouille.
Sous le nom de la sonnette de la plage correspond une psychanalyste de renom qui aurait étrangement disparu de la société mondaine bogotanaise sur un coup de tête. En regardant sur le web, on tombe sur des photographies d'une femme très attirante, aux yeux souriants, magnifique. Sur une image, la femme est accompagnée d'un homme. En cliquant, on apprend que la psychanalyste était aussi anthropologue.
Dans les années 70, elle serait allée rendre visite aux Indiens entre l'Orénoque et l'Amazone. À l'époque, elle se promenait avec un livre relatant l'expédition de l'homme dans les années 50.
Sur les photos du livre, certains Indiens s'étaient reconnus.
Elle leur avait alors promis de ramener un jour le sorcier blanc qui possédait la musique étrange.
À son retour, elle avait cherché l'homme pendant de longues années et après l'avoir retrouvé, l'avait convaincu de retourner dans la forêt. C'était d'ailleurs après cette rencontre qu'elle s'était exilée sur la maison de la plage. On cherche un stylo. Et en farfouillant dans notre sac, on tombe sur un papier humide.
C'est la carte que l'homme que nous avions croisé dans les forêts du Darien nous avait donnée. Avec l'humidité, le papier s'est collé sur lui-même et en essayant de le déplier, on arrache des morceaux d'images et des zones vides apparaissent sur le plan.